Nous continuons donc ce matin notre parcours. Pour certains d'entre vous, nous avons déjà commencé hier à nous mettre à la suite de Jésus doux et humble. Dans ce lieu de parémonial, et en particulier dans ces trois jours saints du Triduum pascal, c'est une belle grâce qui nous est donnée de pouvoir contempler Jésus qui s'offre à nous et de pouvoir le suivre dans sa douceur et dans son humilité. Hier, je vous avais proposé, pour ceux qui étaient là, de contempler Jésus dans le lavement des pieds, une manière aussi de nous introduire à ce que nous avons vécu hier soir, Jésus qui lave les pieds de ses disciples, qui se fait le serviteur et qui nous invite, à sa suite, à nous mettre au service les uns des autres. Je vous propose aujourd'hui d'entendre un autre texte de l'Évangile, qui sera le texte de la profession de foi de Pierre dans l'évangile de saint Marc au chapitre 8, versets 27 à 33. Jésus qui demande à ses disciples « Pour vous, qui suis-je ?» mais aussi Jésus qui annonce pour la première fois qu'il va marcher vers sa passion, qu'il va mourir et ressusciter. Et je ferai donc comme hier soir, et puis je ferai dans les prochaines méditations, je vous proposerai le même cheminement. Je commencerai par faire quelques remarques sur ce texte de l'Évangile et après je vous proposerai cinq attitudes qui peuvent nous guider au long de cette journée. Je commence donc en lisant ce passage de l'Évangile de Marc, chapitre 8, à partir du verset 27. Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages situés dans la région de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il les interrogeait. « Pour les gens, qui suis-je ? » Ils répondirent « Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres, un des prophètes. » Il les interrogeait de nouveau. « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Pierre prend la parole et répond « Tu es le Messie. » Il leur défendit alors vivement de parler de lui à personne. Et pour la première fois, il leur enseigna qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que, trois jours après, il ressuscite. Jésus disait cela ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches, mais Jésus se retourna, et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Voilà, d'abord donc quelques remarques, quelques méditations par rapport à ce texte. Ce texte d'abord, on peut dire que c'est le tournant de l'Évangile. Et même dans le texte de l'Évangile de Marc, nous sommes au chapitre 8, il y a 16 chapitres dans l'Évangile de Marc, donc nous sommes exactement à la moitié. Nous sommes à la moitié de l'Évangile de Marc et nous sommes probablement aussi à la moitié du cheminement des disciples, et en particulier de Pierre. Il y a quelque chose qui est assez surprenant. Pourquoi est-ce que, alors que Pierre vient de répondre « Tu es le Christ », la première chose que lui demande Jésus, c'est de se taire? Est-ce que c'est parce que c'est une mauvaise réponse? Est-ce que c'est parce que Jésus ne veut pas que nous sachions que Jésus, qu'il est le Messie? Et pourtant, c'est bien pour cela qu'il est venu. Jésus veut que nous le connaissions. Jésus veut que la bonne nouvelle soit annoncée. Mais la réponse de Pierre est certainement une bonne réponse. Mais ce n'est pas une réponse complète. Tu es le Christ. Les premiers mots de l'évangile de Marc, c'était « Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu ». Jésus-Christ, Fils de Dieu. Au chapitre 8, lorsque Jésus pose la question à Pierre, Pierre a la moitié de la réponse. Tu es le Christ. Il faudra attendre encore plusieurs chapitres, l'autre moitié de l'Évangile, le chapitre 15, pour que, enfin, quelqu'un, au pied de la croix, dise vraiment celui-ci était Fils de Dieu. L'élément de réponse qui manquait à Pierre à la moitié de l'Évangile. Donc Pierre a peut-être fait la moitié du chemin, tu es le Christ. Il lui reste encore la deuxième moitié du chemin à faire. Tu es Fils de Dieu. Pour Pierre, 10 sur 20. C'est correct. Mais on peut avancer. On peut faire mieux. Quel est le chemin qu'il reste à faire à Pierre ? Pierre a compris que Jésus était le Messie. Mais une fois qu'on a dit que Jésus était le Messie, c'est encore relativement vague comme compréhension. Les contemporains de Jésus et de Pierre ont bien des manières de comprendre ce que ça veut dire le Messie. Certains peut-être attendaient un Messie à la manière du roi David, qui allait sauver son peuple, peut-être lever une armée ou quelque chose comme ça. C'était probablement d'ailleurs loin d'être la majorité. Parfois on pensait que tous les Juifs ressemblaient à ça, non. Certains aussi pensaient que le Messie allait être un prophète, comme Élie. D'autres avaient encore bien d'autres opinions sur ce que pouvait être le Messie. Dans l'Ancien Testament, il y a de très nombreux textes qui annonce la venue du Messie. Et tous ces textes sont extrêmement différents. Eh bien, c'est précisément l'un de ces textes auquel Jésus va faire allusion immédiatement après que Pierre dise « Tu es le Christ ». Pour la première fois, Jésus leur enseigna qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus est le Messie, mais un Messie qui va être le Messie par sa souffrance. Jésus fait allusion à un passage de l'Ancien Testament dont nous avons entendu un petit extrait ce matin et que nous continuerons à entendre cet après-midi et ce soir dans l'Office de la Passion, qui est la figure décrite par Isaïe, le serviteur souffrant. C'était bien annoncé dans l'Ancien Testament, mais peut-être que Pierre, au moment où il dit « tu es le Messie », n'a pas cette compréhension-là du Messie en tête. Il a peut-être d'autres compréhensions du Messie. Ce que nous avons à comprendre avec Pierre, c'est que oui, Jésus est le Messie. Il l'est bien, sans aucun doute. Mais il l'est en vivant avec nous. Il l'est non pas en annulant nos difficultés, mais en les portant avec nous. Jésus ne vient pas supprimer le péché du monde d'un coup de baguette magique. Il vient en le prenant sur lui. Il vient en mourant pour nos fautes, nos péchés. Jésus ne vient pas sauver l'humanité comme de l'extérieur, en déclarant que nous sommes sauvés. Jésus vient nous sauver de l'intérieur, en marchant avec nous, en prenant part à notre humanité, en se mettant à notre service, comme nous avons commencé à le méditer hier. Et le chemin sur lequel Jésus invite ses disciples, c'est ce chemin, c'est ce même chemin, ce chemin dans lequel il ne s'agit pas, vous voyez, comme de sortir de l'humanité, mais plutôt de la vivre pleinement, d'assumer tout ce que nous avons à vivre. Et de l'intérieur de cette humanité, de l'intérieur de cette expérience humaine, de porter le salut. Et c'est cet aspect encore peut-être que nous pouvons souligner dans ce texte. Jésus vit ce chemin du serviteur souffrant. Nous allons vivre tout à l'heure le chemin de croix. Mais Jésus insiste aussi particulièrement, et c'est très frappant ici, sur cette invitation à suivre ce chemin avec lui. Pourquoi est-ce que Jésus pose la question à ses disciples? Et les foules, elles disent quoi sur ce que je suis? Et Jésus avait besoin de connaître sa cote de popularité, de savoir si les gens avaient commencé à le reconnaître. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Mais est-ce que Jésus ne pouvait pas nous le dire tout simplement? Bon, voilà, maintenant, une fois que j'ai fait tous ces miracles, que j'ai fait ces multiplications des pains, que j'ai marché sur les eaux, bon, je peux vous le dire clairement, je suis le Messie. Et pour qu'il n'y ait pas de méprise sur ce que ça veut dire que je suis le Messie, je vais vous le dire en vous expliquant à partir du prophète Isaïe que je suis le Messie à la manière du serviteur souffrant. Ce n'est pas la manière de faire de Jésus. Pour vous, qui suis-je? Ce que veut Jésus, c'est que ses disciples et nous-mêmes avec eux, nous nous engagions dans cette réponse. Jésus ne veut pas dire lui-même. Il veut que nous le disions, nous. On a peut-être l'impression que le résultat est le même. À la fin, si Jésus nous dit « Je suis le Messie, le Fils de Dieu », nous le croirons. Nous essaierons de le croire. Nous saurons au moins qu'il l'a dit. Mais ça ne sera pas passé encore par nos lèvres. Jésus veut que nous le disions. Pour vous, qui suis-je? Jésus, tu es le Christ. Si je prends la même réponse de Pierre dans l'évangile de saint Matthieu, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et voyez, à ce moment-là, cette réponse, elle est passée par mes lèvres. Elle n'est pas juste une réponse qui est tombée du ciel et qui est arrivée jusque dans mon cœur. C'est une réponse qui est passée par mon cœur pour ressortir par mes lèvres pour que je puisse la dire, non seulement à Jésus, mais peut-être aussi l'annoncer. Ce que Jésus attend, c'est pas simplement que nous sachions, que nous reconnaissions, que nous adhérions. Ce que Jésus attend, c'est que nous nous engagions avec lui. Et nous entendrons dans les versets qui suivent, je vous proposerai de méditer sur ces versets après cet enseignement, Jésus nous invite à marcher avec lui. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Jésus ne dit pas seulement qu'il est celui qui va passer par la passion. Jésus ne veut pas être le seul à passer par la passion. Jésus n'a de cesse, à partir de cette moitié de l'évangile, de nous inviter à le suivre et à le suivre dans sa passion. Pour la première fois, Jésus leur enseigna qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Si l'évangéliste saint Marc dit « pour la première fois », c'est qu'il y a une deuxième, il y a même une troisième. À partir du chapitre 8, mais ce sera le cas encore au chapitre 9, au chapitre 10 de l'évangile de Marc, Jésus va répéter cette annonce qu'il va souffrir, qu'il va mourir et ressusciter. Mais si Jésus le fait, ce n'est peut-être pas seulement parce que les disciples peinent à l'accueillir et à le croire, c'est surtout certainement pour que ses disciples le suivent sur ce chemin de la passion. Jésus n'annonce pas sa passion pour que nous sachions ou ne comprenions quelque chose. Jésus annonce sa passion pour que nous puissions être prêts à le suivre. Alors voyez, c'est peut-être un petit peu ce que je vous propose comme programme pour aujourd'hui, suivre Jésus doux et humble. C'est suivre Jésus dans sa passion. Suivre Jésus qui offre sa vie pour nous. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous aujourd'hui, suivre Jésus, doux et humble, dans sa passion? Alors je vous propose, donc, comme annoncé, 5 attitudes qui peuvent nous aider, nous nourrir autour de cette journée. Encore aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est peut-être de noter ces 5 attitudes, mais peut-être aussi d'en choisir une, peut-être deux, que le Seigneur me suggère pour moi aujourd'hui. Peut-être un point sur lequel j'aurai à travailler particulièrement un point qui m'est un petit peu plus délicat, ou en tout cas un point, vous voyez, qui résonne particulièrement avec là où j'en suis dans mon expérience humaine, spirituelle. Pour suivre Jésus dans sa passion, la première chose que je vous invite, c'est de raviver en vous le désir de la sainteté. Le désir de la sainteté. Nous entendons bien l'exigence de Jésus. Peut-être que nous sommes un petit peu comme Pierre, où jusque-là nous étions assez enthousiastes d'avoir suivi Jésus en Galilée, d'avoir vu tous ses miracles. Voilà, Pierre, il y a peu, peut-être a vécu cette expérience où il a même fait un peu de marche sur les eaux, c'était quand même sympathique. Donc Pierre avait bien envie de suivre Jésus, il avait bien ce désir fort d'être avec lui. Est-ce que ce désir va toujours rester présent maintenant que Jésus lui propose un chemin qui sera plus rude? Est-ce que vous allez être prêt à me suivre dans ce moment où je vais souffrir, dans ce moment où je vais mourir, pour pouvoir vivre la résurrection? Alors nous aussi, nous avons à laisser grandir en nous ce désir de la sainteté, ce désir de suivre Jésus, quel que soit le chemin qu'il nous propose. Et nous savons que ce désir de la sainteté est est non seulement un beau désir, mais aussi un désir du beau. Peut-être que ce matin, là, je vous refroidis un petit peu en vous présentant tout de suite Jésus qui va vivre sa passion. Mais en réalité, si on regarde les choses, c'est un beau et grand désir de vouloir suivre Jésus qui offre sa vie pour nous. Donner sa vie, comme va le faire Jésus, donner sa vie pour nous, accepter de déposer sa vie pour que toute l'humanité puisse vivre de sa vie. Mais au fond, il n'y a rien de plus enthousiasmant. C'est même ce qui va donner du sens à notre vie. Alors voyez, nous aussi, je pense que tous, d'une manière ou d'une autre, nous avons un désir de sainteté. Tous, d'une manière ou d'une autre, nous avons le désir de suivre Jésus. Il y a peut-être des résistances, comme Pierre en a. Mais nous percevons bien aussi que l'enjeu, c'est d'aller jusqu'au bout de ce don de nous-mêmes. Et pour aller jusqu'au bout de ce don de nous-mêmes, eh bien, il y a ce désir qui est présent en nous et qui va nous stimuler, nous porter, nous aider à avancer. Le désir est un mot qui est important dans notre relation à Dieu, qui est important finalement même dans toute notre vie humaine. Nous voyons bien que si nous n'avions aucun désir, il ne se passerait pas grand-chose dans notre vie. Nous avons tous des désirs. Il y a des désirs un petit peu superficiels. Soit, mais même des désirs superficiels ne sont pas tous bons. Ne sont pas tous mauvais. C'est vrai aussi, ils ne sont pas tous bons. Mais, voyez, on a des aspirations, des désirs qui nous poussent à avancer, qui nous poussent à nous engager, qui nous poussent à nous donner d'une manière ou d'une autre. Mais le désir peut-être le plus profond, c'est ce désir de la sainteté. En fait, il est là en nous. Il est là au fond de notre cœur. Et ce que nous pouvons demander au Seigneur aujourd'hui, c'est qu'il vienne comme le déployer, le révéler, le dynamiser. Ça va ? Le désir de la sainteté. Deuxième attitude que je vous propose, un petit peu dans la suite, c'est la volonté de s'engager. La volonté de s'engager. Pierre et les autres disciples qui ont été avec Jésus, ils n'ont pas été passifs jusqu'ici. Pierre et les autres, ce sont déjà des hommes qui ont entendu Jésus qui, un jour, en passant au bord du lac de Tibériade, a dit « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheur d'hommes. » Pourquoi est-ce que Pierre il y est allé? Ça restera toujours un mystère. Pourquoi est-ce que Pierre a accepté de suivre cet homme qui, de manière tout à fait inattendue, vient l'appeler? Mais certainement, il y avait le désir. Et bien, il y a aussi peut-être un petit peu d'intuition, d'enthousiasme, là aussi, pour suivre cet homme. Donc Pierre s'est mis en route. Mais Pierre va devoir faire une expérience, et peut-être nous avec aussi, que ce n'est pas simplement, vous voyez, suivre Jésus sur un coup de tête. C'est aussi décider de s'engager. Dans la phrase qui suivra, juste après, je vous disais, Jésus va leur dire aux disciples et à la foule, si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut. Cette fois-ci, Jésus ne dit plus « Venez à ma suite ». Jésus, on a même l'impression, nous renvoie à notre volonté. Si quelqu'un veut, bon ben moi je veux pas. Donc ça s'arrête là. Jésus ne nous dit pas « Non, mais quand même, ce serait bien, il faudrait que vous y alliez ». Jésus nous demande si quelqu'un veut. Il ne s'agit pas simplement de recevoir. Il ne s'agit pas simplement de dire « Oui, c'est bien ». Il s'agit aussi de vouloir. « Oui, Seigneur, je veux marcher à ta suite ». C'est quelque chose sur lequel je reviendrai aussi un petit peu cet après-midi. Mais ce verbe « vouloir » est un verbe qui est important dans l'Évangile. Alors nous aussi, peut-être que c'est quelque chose que nous pouvons un peu comme réactiver en nous ce matin, à notre volonté, notre détermination à suivre Jésus. Voilà, peut-être que le poids de la vie, peut-être que nos habitudes, peut-être que le quotidien de notre existence a un petit peu parfois anesthésié notre volonté. Peut-être que nous sommes devenus un petit peu, comme on dit, velléitaires. Oh oui, nous aimerions bien suivre Jésus. Mais j'en ai pas vraiment le temps. J'en ai pas vraiment l'énergie. J'en ai pas vraiment la santé. Et donc, au fond, j'ai peut-être le désir de suivre Jésus, mais lorsqu'il s'agit de passer à l'action, il se passe plus grand-chose. Et à traduire, voyez, pour les petits engagements de notre vie. Voilà. J'ai le désir de prier. Mais le désir de prier ne suffit pas. Il faut aussi avoir la volonté. Et la volonté, vous voyez, qui est ce passage, finalement, qui permet de passer de l'intelligence ou du désir à une action concrète. La volonté, vous voyez, c'est ce qui fait que ce que je suis, ce que je porte profondément, eh bien, ça vient se manifester concrètement dans des actes concrets, dans des petits pas, dans des décisions qui viennent marquer mon existence. L'exercice de la volonté. La volonté, c'est un petit peu comme une espèce de muscle qu'il faut exercer. On voit bien que de temps en temps, on a tous ces grands désirs. Mais lorsqu'il s'agit de les mettre en œuvre, on est bien faible. On est comme des petits enfants qui apprennent à marcher et qui se cassent la figure régulièrement. Alors vous voyez, bien sûr, il ne s'agit pas de tout faire à la force du poignet. La grâce de Dieu est toujours première dans notre vie. Et pourtant, réponse à l'appel de Jésus, il s'agit bien aussi d'exercer notre volonté. Oui, je veux te suivre, Jésus. Pas simplement avec mes lèvres, avec mes mains, avec mes pieds, avec mon cœur, avec tout ce que je suis. Mettre concrètement ma vie en route, derrière toi, toi qui te donnes à nous dans ta passion. Voilà, la volonté de s'engager. La troisième attitude que je vous propose, peut-être pour avancer aujourd'hui, c'est accepter ce que je suis. C'est aussi un aspect qui est touchant dans la figure de Pierre. Pierre, il n'hésite pas. Jésus lui pose la question, d'ailleurs, enfin, il ne pose pas la question à Pierre, il pose la question aux disciples. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Et là, qu'est-ce qui se passe en réalité? Les disciples, ils n'étaient pas trop prêts à cette question. Répondre ce que les gens disaient, ça allait à peu près. « Oh, les gens, ils disent que tu es Élie, Jean-Baptiste ou un des prophètes. Et vous, que dites-vous » Alors là, vous voyez, Matthieu, Thomas, André, ils sont là en train de se dire « Alors attends, qu'est-ce qu'il faut répondre avec ça? Si je dis « Tu es Jean-Baptiste », est-ce que c'est une bonne réponse? Ah, mais si je dis que tu es Élie, est-ce que Jésus, il va le prendre bien ?» Vous voyez ça? Je ne sais pas très bien ce qui se passe. Pierre, lui, il assume. Tu es le Christ. Au moment où Pierre dit ça, il n'est pas sûr que ce soit une bonne réponse. Mais il le dit. Comme juste après, d'ailleurs, quand Jésus commence à dire qu'il va souffrir, Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Bon, il aurait pu réfléchir un petit peu plus cette fois-ci. On sent que, vous voyez, il y a comme une espèce de spontanéité de Pierre. Alors la spontanéité, peut-être que parfois, il faudrait remettre un petit peu des bornes. Parce que, voilà, de fait, la deuxième fois, la première fois, la réponse de Pierre était bien. La deuxième, un peu moins bonne. Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Mais au moins, ce que nous pouvons retenir de Pierre, c'est que justement, il ne se pose pas trop de questions. Il s'accepte tel qu'il est. Vous voyez, je m'imagine en tout cas un personnage de Pierre qui justement a pu suivre Jésus parce que, voilà, il connaît sa richesse, il connaît sa faiblesse, et puis on y va avec ça. Au bord du lac de Tibériade, Pierre, il aurait pu se dire « Attends, mais franchement, Jésus, s'il savait qui je suis, il aurait mieux valu qu'il ne m'appelle pas. Il ne sait pas très bien qui je suis. Et donc je vais lui dire à Jésus, écoute Jésus, poliment, hein, appelle-en un autre, ce sera mieux. Hein. » Et bien Pierre n'a pas fait ça. Pierre, il a accepté, il a entendu l'appel de Jésus. Il savait bien qu'il n'était pas parfait. Il pressentait déjà qu'il allait se casser la figure une ou deux fois et peut-être même un peu plus. Et pourtant, eh bien, il y va avec ce qu'il est. Au moment de l'agonie, c'était touchant encore hier, on l'entendra ce soir. Mais oui, Jésus, je te suivrai même si je dois mourir avec toi. Avant de dire que Pierre ne savait pas très bien ce qu'il allait dire, regardons sa générosité. Voilà, il sait bien, Pierre, que ce n'est pas complètement sûr en réalité. Il essaye de se convaincre. Qui va y aller. Mais en tout cas, il y va, tranquillement. Et voyez-nous, c'est parfois aussi un petit peu ce qui peut nous bloquer dans notre relation avec Jésus, pour suivre Jésus. On voudrait suivre Jésus, mais moyennant, voyez les deux, trois petits trucs qu'il faudrait changer en nous pour pouvoir y aller. Ou pour le dire négativement, il y a peut-être... On trouve toujours une fausse excuse pour suivre Jésus. Ah, mais je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela, etc. Et finalement, on en vient à penser que Jésus, il voudrait appeler quelqu'un qui est différent de moi. Si j'étais autrement, alors Jésus pourrait m'appeler à le suivre. Si j'étais plus comme ci ou plus comme ça. Mais ce n'est pas le cas. Jésus m'appelle, moi, aujourd'hui, tel que je suis, comme je suis. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous. Jésus m'appelle à le suivre aujourd'hui. Il n'y a rien qui ne peut faire obstacle à cet appel de Jésus. Ma faiblesse, non. Ma pauvreté, non. Mon péché, non. Tel que je suis, Jésus m'appelle. Et je dois accepter, au fond, de voilà, comme on le dit souvent, mais c'est bien de se le redire, je dois accepter de m'aimer tel que je suis. Je dois accepter que Jésus vient m'appeler tel que je suis. Hier soir, les disciples, ils n'étaient pas tous purs. Et Jésus leur a lavé les pieds à chacun d'entre eux. Voilà. Et c'est parfois un rude combat pour certains d'entre nous, peut-être, d'accepter ceci. Accepter que Jésus m'appelle tel que je suis. Et c'est beau. Quatrième attitude, du coup, que je vous propose, mais qui va, enfin, qui en est un peu le prolongement, c'est que, enfin, de s'enraciner dans le présent. Jésus m'appelle tel que je suis, et Jésus m'appelle maintenant. Voilà, aujourd'hui, 7 avril 2023, à Paray-le-Monial. Jésus m'appelle maintenant. Pierre ne répond pas à Jésus « Laisse-nous un peu de temps. » Ou Pierre ne répond pas à Jésus « T'es sûr que tu veux pas qu'on retourne en Galilée comme on faisait avec les miracles et tout ça ? C'était quand même sympathique. » Pierre ne fuit ni dans le futur, ni dans le passé. Pour Pierre, l'enjeu, c'est au contraire, vous voyez, d'accueillir cet appel de Jésus pour maintenant. Alors, pour le dire un petit peu négativement, vous voyez les tentations que nous pouvons subir. La tentation, vous voyez, de dire plus tard, de reporter. Quand on est enfant, on se dit « quand je serai grand ». En fait, c'est une grave erreur. Et quand on est étudiant, on se dit quand je travaillerai, quand je serai marié, quand j'aurai réglé telle ou telle difficulté, alors là, je pourrais m'engager à la suite du Seigneur. Puis quand on y arrive, en fait, on est débordé. Hein. Donc on dit quand je serai à la retraite. Et puis, voilà, ceux qui sont à la retraite, là, il faut que vous disiez aux autres, hein, ça ne marche pas plus. Hein, et voilà, parce que quand on est à la retraite, on est toujours débordé. Il y a toujours quelque chose, la tentation, elle existe toujours, effectivement, de reporter les choses. De reporter les choses, vous voyez, alors ça, c'est un peu à grande échelle. Vous voyez, à petite échelle. Non, mais franchement, Seigneur, aujourd'hui, la prière, ça va être difficile quand même. Mais demain, promis, demain. Puis tac, 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 et on arrive à la fin du carême, et on est toujours au même point. Voilà, non, mais la sainteté, c'est pas pour demain. La sainteté, comme disait Sainte Thérèse, rien que pour aujourd'hui. Aujourd'hui. Voilà, ça, c'est la tentation, alors c'est peut-être... Les plus jeunes, vous mettrez le plus jeune là où vous voulez, hein, qui auront peut-être davantage peut-être la tentation du futur. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance, c'est l'autre tentation qui arrive. Ah, mais je peux plus. Mais quand j'étais... Là, j'aurais pu, mais maintenant, c'est plus possible. Même sur des points de conversion, parfois. On voit que quand on avance, petit à petit... Il y a certains plis de notre humanité, de nos habitudes, etc., qui ont plus de poids. Avant, ça aurait été possible, mais maintenant, là, Seigneur, je suis désolé, c'est plus possible, là, maintenant. À mon âge. J'entends ça parfois en confession, à mon âge. À mon âge, tout est possible. Il est toujours possible. Et bien sûr, de se convertir. Il est toujours possible de suivre Jésus dans le don de soi. Et le seul moment, en fait, où c'est possible, c'est aujourd'hui. Je ne sais pas si demain existera. Et demain, on se reposera la question, si la question se pose. Hier, de toute façon, je ne peux plus changer ma journée d'hier. Elle est faite. je peux demander pardon, je peux rendre grâce, mais c'est fait. Aujourd'hui. Et vivre, enfin vraiment vivre ce temps présent. On voit bien tous les risques de fuite un peu qu'on a. Notre quotidien, de plein des manières finalement, nous distrait de vivre avec intensité ce moment présent. Voilà, on pense voilà, à ce qui va arriver demain, on prépare tout un tas de choses, etc. Je ne dis pas que, vous voyez, il faut... Bien sûr, nous avons à vivre avec responsabilité notre vie chrétienne et humaine. Mais ne fuyons pas ce temps présent. Acceptons et de nous enraciner vraiment dans ce moment présent. Jésus me demande maintenant de le suivre sur ce chemin de don de lui-même. Voilà, et puis donc une cinquième et dernière attitude, est vivre dans le don de soi. Qu'est-ce que c'est que suivre Jésus dans sa passion ? C'est suivre Jésus qui donne sa vie. Ça paraît rude, exigeant, peut-être même triste. Et si je me donne, je fais plus attention à moi, je ne suis plus moi-même, je ne vais pas pouvoir m'épanouir. Et pourtant, je pense que nous avons tous, chacun à notre manière, fait l'expérience que le vrai sens de la vie, il se trouve lorsque nous nous donnons, de bien des manières. Lorsque je me donne dans la mission, lorsque je me donne pour mes enfants, lorsque je me donne, vous voyez, pour ceux au service desquels je me mets, c'est là en fait même que je trouve la vraie joie et une paix profonde. Si je me concentre sur moi-même, si je cède à ces égoïsmes qui peuvent revenir toujours d'une manière ou d'une autre, la seule chose que je trouve en réalité, c'est une forme de tristesse. Ce à quoi Jésus nous invite aujourd'hui, c'est un vrai décentrement de nous-mêmes. C'est un vrai don de soi. Ce n'est pas un chemin facile. La première chose consiste à reprendre conscience de ce désir en réalité que nous avons de nous donner. D'une manière ou d'une autre, en fait, nous voyons bien que le sens de notre vie, c'est de se donner. Et c'est bien de se le redire. Parce qu'en fait, dans le quotidien, cette question fondamentale, vous voyez, au sens où c'est la plus profonde de notre existence, elle est souvent un peu recouverte par tout un tas d'autres questions. Comment je vais réussir ça? Comment je vais organiser ma journée? Comment je vais faire tout un tas de choses? Mais est-ce que toutes les questions, peut-être un petit peu plus superficielles que je me pose, elles sont bien orientées, enracinées dans cette question fondamentale? Comment est-ce que je me donne? Comment est-ce que je me donne au Seigneur? Comment est-ce que je me donne à mes frères? Jésus, aujourd'hui, vit sa passion. Au fond, c'est tout simple. Jésus donne sa vie. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Jésus donne sa vie. Il n'a pas gardé sa vie pour lui. Il l'a donnée. Et ça s'est manifesté, révélé concrètement lorsqu'il meurt sur la croix. Et Jésus invite ses disciples, chacun de nous aussi, à donner notre vie, à nous donner dans les petites choses du quotidien, à nous donner par l'engagement total de notre vie, quelle que soit notre vocation, celle que nous avons déjà accueillie, celle que nous discernons, celle pour laquelle nous prions le Seigneur de venir nous éclairer. Mais d'une manière ou d'une autre, l'enjeu c'est bien celui-là, de donner notre vie, de vivre ce don de soi quotidiennement et dans l'ensemble de notre vie. Voilà donc pour ce matin. Jésus nous pose cette question aussi, pour vous, qui suis-je ? question qui n'est pas uniquement de l'ordre intellectuel, de l'ordre de la connaissance, question qui vient rejoindre notre engagement. Je vous redis simplement ces cinq attitudes que je peux vous proposer pour aujourd'hui. Le désir de la sainteté, une deuxième attitude, la volonté de s'engager, une troisième attitude autour de l'acceptation de ce que je suis, une quatrième attitude autour de cet enracinement dans le présent, ou une cinquième attitude qui nous invite à vivre le don de soi. Dans la prière ce matin, dans la suite de cette matinée, on vous propose de continuer à méditer la parole de Dieu. Et une proposition qui vous est faite, c'est de méditer à partir de la parole de Dieu, une forme de lectio divina, c'est-à-dire une lecture priante d'un passage de l'Évangile. Donc c'est le passage qui suit immédiatement le passage que je vous ai commenté ce matin, dans lequel Jésus dit à ses disciples, voilà comment le suivre. Qu'est-ce que ça veut dire, le suivre? Donc, ce qui vous permettra de prolonger. Donc ça, n'hésitez pas, vous voyez, à lire ce texte plusieurs fois, à le laisser résonner dans votre cœur, et puis du coup, ne pas garder ce texte comme d'une manière extérieure, vous voyez, comme le texte que je vais avoir devant moi, mais comme cette parole qui vient me nourrir intérieurement, par laquelle Jésus vient me toucher, vient me conduire, vient me convertir aujourd'hui.